Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on se penche sur une question fascinante. Comment un pays qu'on célèbre mondialement comme l'utopie écologique par excellence et une démocratie pacifique sans armée a pu se fracturer aussi soudainement en quelques semaines?
Ouais, un vrai séisme politique.
Exactement. On plonge dans la crise costaricienne de 2018. Et la question au cœur de cette confrontation d'idées, c'est de savoir si ce bouleversement était fondamentalement une réaction identitaire face à une ingérence internationale, comme je suis prête à le démontrer, ou l'explosion inévitable d'inégalités économiques longtemps ignorées, ce que vous défendez.
Et je m'en tiens que la réponse se trouve dans les fondations mêmes du pays, en fait. Pas dans l'écume de ces débats moraux.
Pourtant, l'étincelle est indéniablement culturelle. Il faut se rappeler du 9 janvier 2018. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui d'ailleurs siège ironiquement à San José, publie un avis qui exige la légalisation du mariage pour tous.
Mmh.
Dans un pays à majorité catholique pratiquante, ça a littéralement transformé l'élection d'une véritable crise de souveraineté. Le candidat évangélique Fabricio Alvarado n'a pas seulement critiqué la décision morale, il a menacé de retirer le Costa Rica de la juridiction de la Cour.
Oui, il a fait de cette élection un référendum sur l'indépendance nationale, c'est vrai.
Voilà, il est passé de 3% à près de 25% d'intention de vote au premier tour. C'est une réaction immunitaire foudroyante contre des juges internationaux non élus.
Mais attendez, vous parlez d'un choc moral, mais vous ignorez complètement le baril de poudre sur lequel cette étincelle est tombée.
Un baril de poudre ?
Bien sûr. Ce conservatisme n'aurait jamais pris une telle ampleur sans une base matérielle désastreuse, en fait. Le vrai moteur de la crise, c'est l'immobilité alarmante du coefficient de Gini, l'indicateur qui mesure les inégalités.
Ouais.
Et on a un taux de pauvreté chronique bloqué à 20%. Derrière le verri d'un PIB de 62 milliards de dollars qui est presque exclusivement concentré dans la riche vallée centrale, l'État a complètement abandonné les côtes et les zones rurales. Et devinez qui a comblé ce vide institutionnel ?
Les églises évangéliques, forcément.
Exactement. Elles n'ont pas juste offert des prières contre une décision de justice. Elles ont construit un maillage de solidarité bien tangible, tu voyais. Là où le gouvernement n'asphaltait même plus les routes, ces églises ont ouvert des centres de désintoxication, des banques alimentaires, des réseaux d'entraide pour trouver du travail.
C'est un point valide, mais...
Leur montée politique n'est pas qu'une question de foi. C'est le symptôme d'un désespoir économique absolu.
D'accord, je vous entends, mais si la réalité matérielle dictait vraiment tout, comment est-ce que vous expliquez la résolution de cette crise au second tour ?
Je vous explique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, face à la menace de l'isolement diplomatique incarné par Fabricio Alvarado, le candidat progressiste Carlos Alvarado l'a emporté avec 60,7% des voix. Il a construit un véritable barrage idéologique d'urgence.
Un barrage qui a coûté cher d'ailleurs. Peut-être, mais il a réussi l'impossible. Il a coalisé les syndicats de gauche, les étudiants urbains et même les élites économiques libérales. Une telle union des contraires, unissant des groupes qui se déchirent d'habitude sur le partage des richesses, ça prouve bien que la défense d'une identité culturelle et démocratique a primé sur les intérêts de classe, non ?
Je ne vois pas les choses comme ça. Regardez ce qui est arrivé à votre fameux barrage idéologique face au mur de la réalité budgétaire. Il s'est effondré de l'intérieur ?
À cause de l'OCDE, vous voulez dire ?
Tout à fait. Pour intégrer l'OCDE, ce club très fermé des pays riches qui exige une rigueur fiscale absolue, et pour éponger une dette galopante, Carlos Alvarado a imposé une cure d'austérité brutale.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu la hausse de la TVA.
Hausse de la TVA, gel des salaires des fonctionnaires, coupe sociale. Le président qui avait rassemblé la gauche pour contrer la vague religieuse s'est retrouvé à envoyer la police réprimer, dans la rue, les syndicats même qui l'avaient élu. Les forces économiques ont fini par faire céder la digue culturelle.
Je ne nie pas que la coalition ait fini par exploser sous la pression de la dette. Mais le fait même que ce barrage ait pu être construit et qu'il ait tenu bon au moment décisif de l'élection, ça démontre la puissance écrasante du facteur culturel pour moi. L'identité a littéralement mis la lutte des classes sur pause.
Une pause très éphémère alors, et qui a eu un effet domino dévastateur. Cette trahison perçue par les classes populaires explique parfaitement l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Chavez en 2022.
L'ancien cadre de la Banque mondiale.
Voilà, avec son style très abrasif. Et regardez où nous en sommes à l'approche de 2026. Vos débats sociétaux sont totalement supplantés par l'urgence sécuritaire. Face au narcotrafic, on voit émerger une droite radicale prenant un modèle ultra-répressif. Le vernis progressiste n'a pas résisté aux fractures matérielles qu'il refusait de traiter.
C'est une analyse implacable. Mais je dirais que l'élection de 2018 aura au moins eu le mérite de forcer le Costa Rica à se regarder dans un miroir, révélant une nation profondément divisée. Bien que nous maintenions notre désaccord sur le catalyseur principal, le choc de souveraineté pour ma part, le déterminisme économique pour la vôtre, je pense qu'on converge sur un point crucial.
Oui, l'imbrication complexe entre la pauvreté rurale et l'opportunité politique. La carte électorale a redessiné la frontière entre la fameuse Suisse centre-américaine et ses périphéries invisibles.
Remodeler une nation. Il reste encore beaucoup à analyser sur la manière dont ces forces façonneront l'avenir du pays. Merci pour cet échange et à la prochaine fois.